RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe Paget, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'Info Africaine, les investigations en France contre Agatha Biarimana, veuve de l'ancien président auto-rwandais, sont closes, sont mises en examen. Une décision rendue vendredi dernier selon des sources proches du dossier. Agatha Biarimana échappe à ce stade à un procès. La Cour internationale de justice donne elle raison à la Guinée équatoriale dans le litige territorial qui les pose au Gabon. Les deux pays se disputent depuis des décennies trois îles inhabitées dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. À la une également, une délégation de la Cour pénale internationale, actuellement à Conakry en Guinée. Comme chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009 sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Nous irons également au Bénin où l'on attendait ce lundi le verdict du procès de l'ancien directeur général de la police. Mais les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en instruction. Les conseils de Philippe Ondéignon dénoncent une hérésie judiciaire. Je vous le disais, les investigations en France contre Agatha Biarimana, la veuve de l'ancien président auto-rwandais Juvénal Habyarimana, sont désormais closes et cela sont mises en examen. Une décision, je vous le rappelle également, rendue vendredi dernier selon des sources proches du dossier. Alexandre Abrangeon, les juges ont conclu que les témoignages à charge pour son rôle éventuel lors du génocide de 1994 étaient contradictoires, incohérents, voire mensongers.
Dans une ordonnance datée de vendredi, les juges chargés du dossier concluent qu'il n'existe pas à ce stade d'indice grave et concordant contre Agatha Biarimana, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide. Si la rumeur est tenace, poursuivent les juges, elle ne peut faire office de preuve en l'absence d'éléments circonstanciés et concordants, écrivent-ils. Les enquêtes sont désormais closes sans que la veuve de l'ancien président n'ait été mise en examen. Agatha Biarimana a été visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Une enquête ouverte après une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Âgée de 82 ans, elle échappe à ce stade à un procès. Cette décision intervient alors que le parquet national antiterroriste a saisi la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en septembre dernier en vue de sa mise en examen. Une audience est d'ailleurs prévue ce mercredi 21 mai.
L'avocat de la FIDH, la partie civile, déplore l'absence de mise en examen alors que selon lui, il existe des éléments à charge largement suffisants. La Cour internationale de justice a rendu sa décision sur le litige qui oppose la Guinée équatoriale au Gabon. Les deux pays se disputent depuis le début des années 70, trois îles inhabitées dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Cela dit, la haute juridiction des Nations Unies a donné raison à la Guinée équatoriale. À La Haye, les précisions de Stéphanie Maupart.
C'est une île d'à peine 30 hectares et deux îlots qui depuis des années nourrissent un conflit entre les deux États pétroliers. Les deux pays revendiquaient leur souveraineté sur ces bandes de terre et plus particulièrement sur les eaux territoriales, les entourant des eaux qui seraient potentiellement riches en pétrole, en gaz et en poissons, c'était l'enjeu principal de cette affaire. En revendiquant leur souveraineté, chacun des deux États brandissait des titres. Le Gabon s'appuyait notamment sur une convention que Malabo avait qualifiée de bout de papier lors des audiences à La Haye en octobre. Les juges ont estimé que cette convention n'avait effectivement pas de valeur légale. Au contraire, les juges ont décidé qu'était valable un titre de 1968 remis par l'Espagne à la Guinée équatoriale. Au-delà du pétrole, il était aussi question d'un accès à la mer qui sera désormais plus limité pour le Gabon. S'ils ont délimité les frontières, comme le demandaient d'un commun accord les deux États, les juges n'ont pas dit qui avait la souveraineté sur les petites îles, mais les deux États ont promis d'appliquer la décision de la Cour. Stéphanie Maupala et RFI.
Et pour aller plus loin, Alexandra Brongeon a pu joindre en début de soirée Serge Diomont, expert en énergie et pétrole. Elle lui a demandé pourquoi on parle de zones potentiellement riches en pétrole et en gaz. Écoutez.
Une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz, c'est une zone effectivement probante en ces matières hydrocarbonées. On les découvre par des clés géologiques en fait. C'est-à-dire que ces clés géologiques montrent qu'effectivement il y a des gisements qui sont en chevauchement sur plusieurs territoires. Et quand cette situation se produit, il y a souvent certaines règles qui sont liées au droit maritime international qui permettent d'établir les frontières maritimes maritimes qui ne sont pas forcément les mêmes frontières terrestres que nous avons, il peut arriver qu'elles se chevauchent. Et en se chevauchant, il peut arriver effectivement que des gisements qui sont situés dans le sous-sol maritime peuvent se retrouver en partage sur plusieurs pays. Et ça peut conduire en ce moment à des litiges.
Dans ce cas précis, il n'y a pas eu d'études.
Il faut bien comprendre que chaque pays réalise des études et ces études constituent ces clés géologiques. Mais les pays ne les déclarent pas tout de suite. Ce sont quand même des éléments de souveraineté. Donc un pays peut faire comprendre qu'il n'a pas fait d'études alors que peut-être qu'il en a fait. Mais dans tous les cas, on n'a pas forcément besoin d'études approfondies quand on sait qu'une zone se situe dans une clé géologique hydrocarbonée. Pas besoin d'études. Les études vont plutôt venir confirmer la quantité de la ressource. C'est ça en fait le but de l'étude. Mais sinon, de façon potentielle, au flair du nez, on sait qu'on peut avoir du pétrole. Parce que quand vous êtes entouré par des bassins sédimentaires probants qui ont du pétrole et du gaz, vous vous trouvez dans une zone au milieu. Et d'office, vous avez des traces d'hydrocarbures qui laissent présager qu'au moins nous avons des réserves. Et là, à ce niveau, on fait la différence nette entre les réserves et les ressources.
Quelle est la différence ?
La réserve, c'est l'existence de la matière brute dans une zone donnée que nous appelons un gisement. Voilà, la matière est là. Par contre, la ressource, c'est la capacité à pouvoir extraire cette réserve. Par exemple, vous pouvez avoir une réserve d'hydrocarbures qui se situe, par exemple, dans les eaux ultra profondes à 5000 mètres de colonne d'eau. Vous voyez, la réserve, elle est là, mais on n'a pas forcément les moyens techniques pour aller l'extraire. Donc, tant que vous ne pouvez pas extraire une réserve, vous l'évaluez en termes de ressources. Mais déjà, ce que l'on peut dire, c'est que on n'attend pas d'arriver à l'état d'évaluation de la ressource pour dire qu'il y a du pétrole ou du gaz dans une zone, mais déjà à l'état de réserve, il est potentiellement permis de dire que nous avons des ressources en quantité probante.
Serge Durmont, expert en énergie et pétrole, répondait aux questions d'Alexandra Brangeon. En Centrafrique, le journaliste Landry Nguema Ngopele a été formellement inculpé. Arrêté le 8 mai dernier, sa première comparution a eu lieu ce lundi au tribunal de grande instance de Bangui. La décision des juges suscite une vague de réactions. De nombreux professionnels des médias et certains groupes de la société civile y voient une manière de museler la presse. Correspondance à Bangui, Rolf Steve Domialeux.
La première comparution s'est tenue à huis clos entre les juges, l'avocat et Landry Nguema Ngopele. À la fin de l'audience, le doyen des juges Mathieu Nanabibi a décidé de l'inculper pour complicité de rébellion, diffusion des informations tendant à causer des troubles à l'ordre public, à pousser à la haine, à la révolte, à la subversion contre la Constitution et les pouvoirs de l'État. Selon Mathieu Nanabibi, il s'agit des crimes et délits punis par les articles 11, 12 ou encore 381 du Code pénal centrafricain. La réaction des journalistes centrafricains n'a pas tardé. Nombreux sont ceux qui exigent sa libération conformément aux règles en vigueur en matière de la liberté de la presse et de la protection des journalistes. Ils dénoncent une arrestation arbitraire et politique. À en croire Maître Roger Junior Lutomo, avocat de Landry Nguema Ngopele, la défense se prépare déjà à l'étape suivante, l'instruction au fond. Ça sera un moment important pour démontrer que le dossier est vide, a-t-il rassuré. Le doyen des juges Mathieu Nanabibi s'appuie sur l'article 85 du Code pénal pour ordonner son inculpation jusqu'à nouvel ordre. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Et puis au tiers de la procédure judiciaire concernant succès, Masra a commencé ce lundi dans la confusion. L'ancien Premier ministre et président du parti Les Transformateurs en garde à vue depuis vendredi matin est accusé notamment d'incitation à la haine et d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs. Tuerie attribuée à des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Il devait être entendu ce matin par les enquêteurs, mais Victor Moria, ses avocats expliquent ne pas avoir pu l'assister.
Les avocats de Succès Masra expliquent ce soir avoir été éconduits de l'entrée de la coordination de la police judiciaire où leur client était entendu par les enquêteurs. Selon eux, un agent les a menacés et insultés. « Bandits, osez entrer si vous êtes des hommes », leur aurait-il lancé. Pendant ce temps, à l'intérieur, le président des transformateurs refuse de répondre aux questions des officiers de la police judiciaire en l'absence de ses avocats. Une plainte a été déposée pour injures et menaces publiques, expliquent les représentants de Succès Masra, qui racontent tout de même que l'agent a été sanctionné par sa hiérarchie. Mais face à ce qu'ils qualifient d'incident majeur, les avocats ont demandé le report de l'audition à demain matin. Du côté du parti, on s'interroge ce soir. Il reste à vérifier que cet événement n'avait pas pour but d'empêcher les avocats d'assister à l'audience de leurs clients, disent-ils. Enfin, les autorités n'ont pas souhaité commenter l'affaire. Le porte-parole du gouvernement dit s'en remettre à la justice pour une affaire qui concerne un justiciable comme les autres. Fin de citation. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Il est 23h40 à N'Djamena.
Conakry, 89.9 FM.
Une délégation de la Cour pénale internationale est actuellement à Conakry, en Guinée. Comme chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du 28 septembre, procès marqué en 2009, du procès du 28 septembre, marqué en 2009 par le massacre de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes dans le stade de Conakry, sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité. Le président a récemment été gracié pour raison de santé par le général Mamadi Doumbouya, une décision qui donne un ton particulier à cette mission de la CPI, notamment pour les représentants des victimes, Sidi Yansané.
Depuis que la CPI s'est penchée sur le massacre du 28 septembre 2009, une dizaine de missions d'évaluation sont intervenues à Conakry pour s'assurer que l'engagement des autorités guinéennes à rendre justice aux victimes est respecté. Le procureur Karim Khan avait lui-même fait le déplacement à Conakry. Il s'était félicité de son ouverture dans le mémorandum d'accord signé avec le président de transition Mamadi Doumbouya, alors colonel. Mais avec la grâce accordée à Moussa Dadis Camara il y a 2 mois, et ce moins d'un an après sa condamnation pour crime contre l'humanité, ce mémo est fragilisé selon son article 4 qui indique que la CPI pourrait se saisir elle-même du dossier si elle constate, je cite, « toute mesure susceptible de nuire fortement à l'avancement de la justice ou toute obstruction au bon fonctionnement du tribunal ». Alseni Sall est le chargé de communication de l'OGDH qui représente les victimes.
C'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais la grâce présidentielle est encadrée. Elle n'intervient que après une décision définitive dans une affaire judiciaire. Pendant que tout le monde attendait à l'ouverture d'un procès en appel, cette grâce qui a été accordée viole les principes les plus basiques en matière de procès équitable dans la mesure où la décision de grâce en sa faveur est intervenu pendant que la procédure n'a pas atteint une phase définitive dans cette affaire.
Le GDH déplore aussi un choix sélectif des autorités quant à l'indemnisation des victimes. Seuls 334 sont concernés alors que près de 500 étaient partis civils au procès.
Et toujours en Guinée, Sékou Kondé, secrétaire permanent du RPG, le parti du président déchu Alpha Condé, interpellé jeudi dernier, a été condamné à une amende de 50 000 francs guinéens, soit environ 5 euros. Il était poursuivi pour réunion non autorisée des fait requalifier en violation d'une mesure administrative. Au Bénin, alors qu'on attendait ce lundi le verdict du procès de l'ancien directeur général de la police, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'est déclarée incompétente. Philippe Ondegnon est accusé de cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion. Les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en instruction. Les conseils de l'officier de police dénoncent une hérésie judiciaire. Ils ont promis de faire appel.
Lorsque l'officier se présente à la barre pour écouter le verdict, il est surpris par la brièveté de la décision. Incompétence de la juridiction, renvoi en instruction et confirmation du mandat de dépôt. Cela a duré moins d'une minute. Les juges considèrent que les faits sont plutôt de nature criminelle. L'ex-patron de la police, Philippe Ondegnon, crâne nu, cartable sous le bras, retourne à sa place sans un mot. Un de ses conseils le rejoint pour échanger avec lui et c'est Maître Keke qui commente la décision au nom des conseils.
C'est une violation flagrante des droits de la défense. C'est des citoyens béninois qui sont en prison. On fait toute la procédure jusqu'à la fin et c'est à la fin qu'ils se déclarent incompétents. C'est de l'infamie judiciaire.
La défense va faire appel. En attendant, et c'est un peu inattendu, selon nos informations, le parquet spécial, insatisfait de la décision, a fait appel ce lundi même. Il demande à la Chambre des appels de réexaminer tout le dossier. Si la Chambre des appels confirme le premier jugement, le parquet devra saisir un juge d'instruction. Le cas contraire, elle devra prononcer une condamnation ou une relaxe. Pour rappel, le procureur avait requis fin avril 2 ans de prison ferme contre Philippe Ondegnon. Le calendrier de la suite de la procédure est encore inconnue. L'officier supérieur de police reste en détention. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Une ministre de l'ex-président sénégalais Macky Sall a été inculpée pour complicité de détournement et placée sous contrôle judiciaire ce lundi par une cour spéciale après le dépôt d'une caution de 87 000 euros. C'est ce que rapporte une source proche du dossier citée par la l'agence France Presse, Madame Salimata Diop, ministre de la Femme, est l'une des 5 ministres de l'ex-président Macky Sall mise en accusation pour malversation présumée le 8 mai dernier par l'Assemblée nationale, qui les a ensuite renvoyées devant la Haute Cour de justice pour notamment des détournements liés à un fonds anti-Covid. Et puis l'actualité au Sénégal, c'est aussi l'inquiétude des transformateurs de cajou qui tirent la sonnette d'alarme. Depuis le début de la campagne de récolte il y a un mois, les prix du fruit de l'anacardier flambent, et cela à cause d'une forte demande internationale et de l'absence de mesures de régulation de l'État. À ce prix, les entreprises sénégalaises de transformation de l'anacarde ne peuvent pas suivre, une situation qui menace la survie même de la petite filière industrielle et du millier d'emplois qu'elle génère. À Dakar, les explications de Léalisa Vesterov.
Début avril, le gouvernement avait promis une série de mesures pour protéger et encourager la fragile filière de transformation de cajou. Sur chaque tonne de noix brute exportée, 32 francs CFA devaient être prélevés et les exportateurs dûment enregistrés auprès des autorités pour avoir une traçabilité des acteurs. Mais un mois plus tard, aucune de ces mesures n'est en place. Face à une demande mondiale forte et sans mesure de régulation, les prix sont déjà à 700 francs CFA le kilo, inatteignable pour la dizaine d'entreprises qui transforment l'acajou au Sénégal, comme celle d'Eliman Dramé à Ziguinchor, en Casamance.
Ce qui nous inquiète, c'est que la noix est en train de partir. C'est inquiétant parce que, en tant que transformateur, si nous n'avons pas accès à la matière première, on sera obligé de fermer. On risque même de licencier le personnel et même de mettre la clé sous la pression.
Un peu plus de 1000 emplois sont menacés. Pour éviter la fermeture, la dizaine d'usines de transformation dans le pays demande à l'État de sécuriser un stock de 7000 tonnes de cajou à un prix abordable pour que ces entreprises puissent continuer à travailler et œuvrer à l'industrialisation du secteur. Léalisa Vesterov, Dakar, RFI.
L'opposition ivoirienne et de nombreux internautes ont dénoncé ce lundi la signature d'une convention entre plusieurs institutions comme le Sénat et la compagnie aérienne française Corsair, qui permet notamment à des élus et leurs familles de bénéficier de tarifs préférentiels dans un hôpital parisien. Jeudi, la présidente du Sénat avait signé cette convention permettant, je cite, la réduction des coûts des billets d'avion sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés. Les propos de la présidente du Sénat laissant entendre que cet avantage serait destiné aux élus de l'Assemblée nationale, du Sénat et de 3 autres institutions ont déclenché une polémique ce lundi au sein de l'opposition. Je vous invite maintenant à Cannes, dans le sud de la France, où se tient la 78e édition du Festival du cinéma. Et on y retrouve Guillaume Thibault, envoyé spécial de RFI, pour couvrir cet événement mythique où sont projetés chaque jour les films en compétition. 22 longs métrages sont en lice pour décrocher la fameuse Palme d'Or. Et aujourd'hui, Guillaume, c'est le film Les Aigles de la République qui était à l'affiche.
C'est la tradition, Zéphirin. Cette soirée a débuté avec la montée des marches pour l'équipe du film. Tapis rouge, tenue de soirée, séance photo, quelques autographes avant d'aller assister à la projection dans le Théâtre Lumière. Les Aigles de la République, c'est un peu du cinéma dans le cinéma. Lorsqu'un acteur vedette égyptien, libre et indépendant, Georges El Nabawi, interprété par Fares Fares, n'a pas le choix et doit accepter de jouer dans un film où il interprète le chef de l'État. Cet acteur aime répéter « On est là pour faire oublier aux gens la douleur ». Mais il va se retrouver lui-même confronté à un pouvoir féroce, mettre sa famille en danger, pris dans les tentacules d'un régime répressif. Ce long métrage est le dernier volet de la trilogie du réalisateur suédois d'origine égyptienne Tariq Saleh, qui boucle sa vive critique du régime politique du président Abdel Fattah al-Sissi, entamé en 2017 avec le Caire confidentiel, puis la conspiration du Caire, prix du scénario Zéphirin, ici à Cannes en 2022.
Guillaume Thibault, envoyé spécial de RFI à Cannes avec les moyens techniques de Tiffany Manta. Du football, l'attaquant nigérian Victor Osimhen fait des étincelles en Turquie. 4 jours après avoir été le grand artisan de la victoire de son équipe en finale de la Coupe, il a encore marqué dimanche lors du match qui a offert à Galatasaray le titre de champion de Turquie. Un doublé Coupe Championnat, 2 trophées qui portent la marque de Victor Osimhen. Olivier Pron, l'attaquant et Super Eagles du Nigeria, prêté par Naples, a survolé la saison alors que beaucoup s'interrogeaient sur son avenir lorsqu'il a débarqué dans le championnat turc en septembre dernier.
40 matchs disputés, toutes compétitions confondues, championnat, coupe et Europa League, 36 buts marqués, 8 passes décisives. C'est peu dire que Victor Osimhen a été décisif dans la saison du club stambouliote. Arrivé en grande pompe début septembre dernier en provenance du Napoli, après une saison en demi-teinte, le Nigérian était attendu au tournant à 26 ans dans un championnat moins clinquant. Il a donc répondu présent et su faire oublier notamment aux supporters de Galatasaray la blessure début novembre de l'argentin Mauro Icardi, écarté des terrains pour la suite de la saison. Quelques mois pour briller, faire taire les sceptiques, puis rentrer en Italie. Prêté sans option d'achat, Naples va bien sûr faire revenir Osimhen pour en tirer le meilleur parti. Financier. À un an de la fin de son contrat, il est temps de le monnayer. Sa clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros. Chelsea et Manchester United ont déjà fait part de leur intérêt pour l'attaquant des Super Eagles. La Juventus aussi. Mais pour un club italien, ce sera plus cher. Pas question de renforcer un concurrent.
Olivier Pron. Et on reparle ce soir de la reprise en main du secteur minier par la junte au pouvoir en Guinée. Des dizaines de sociétés ont perdu leur permis d'exploitation et de recherche. Parmi elles, une majorité d'entreprises guinéennes, victimes du grand ménage de la junte dans le cadastre minier. Des opérations classiques qui posent cependant, Alexis Bédu, la question des conditions d'attribution de ces permis.
Elles travaillent dans la bauxite, les diamants, l'or, dans les latérites. Ces entreprises, bien souvent, ne développaient pas vraiment les concessions qui leur avaient été attribuées. Elles ne respectaient pas leurs engagements. C'est donc une opération classique pour Amadou Ba, directeur de l'ONG Action Mine Guinée.
C'est une opération régulière qui vise à assainir le cadastre minier et à libérer des places pour permettre aux investisseurs sérieux qui veulent mettre de l'argent avec de l'engagement pour exploiter les différentes ressources de notre pays.
Aucune explication officielle n'a été donnée par les autorités, mais la volonté de reprendre en main le secteur minier a été maintes fois répétée par le général Mamadi Doumbouya. Ces retraits interrogent tout de même sur les conditions d'octroi des permis. Ces entreprises avaient-elles les capacités techniques et financières, se demande Oumar Baritotia. Il est directeur de l'Observatoire des mines et métaux en Guinée.
Plusieurs permis ont été octroyés à des entreprises minières et que ces entreprises, après plusieurs années, continuent à détenir ces permis sans mener des activités concrètes sur le terrain. Donc, ce qui amène à des interrogations sur le respect de toutes les procédures légal et réglementaire lié au processus d'octroi des permis miniers à la République de Guinée.
C'est la Commission nationale des mines qui décide de l'octroi ou non d'un permis minier et certains en Guinée pointent des failles dans les conditions d'attribution. Si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que de nombreux promoteurs proches du régime d'Alpha Condé, président avant le coup d'État de 2021, ont été radiés. C'est le cas par exemple de Kebo Energy, présente dans la bauxite du côté de Bofa. La crainte, c'est que les entreprises qui remporteront les appels d'offres pour ces permis désormais libres soient des proches du CNRD aujourd'hui au pouvoir.
Il faut qu'on sache à qui on donne les titres, quelles sont les personnes physiques qui sont derrière les entreprises.
Amadou Ba.
C'est pour éviter que des personnes proches des différents régimes ne puissent en fait souscrire pour l'obtention de titres miniers. Cette exigence est un garde-fou que les États doivent utiliser pour pouvoir éviter des connivences, pour pouvoir éviter des conflits d'intérêts.
Une reprise en main du secteur qui peut aussi être vue comme un énième coup de pression sur certaines sociétés étrangères accusées par la junte de ne pas respecter leurs engagements sur la transformation locale du minerai.
Dossier signé Alexis Bédu. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 00:53 ici à Paris. Et on parle maintenant de musique dans Afrique Soir. Et c'est avec vous, Franck Baudin, de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Et bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Une fois n'est pas coutume, Franck, vous nous proposez une sélection hexagonale ce soir. Et on commence par cette triste nouvelle qui a secoué le monde de la musique ces derniers jours. Il s'agit de la mort du rappeur Warrenois.
Oui, Zéphirin, une nouvelle d'autant plus triste qu'elle a été soudaine. Samedi dernier, dans la matinée, nous apprenions le décès du rappeur de Montreuil à l'âge de 31 ans. Il avait été acclamé quelques jours plus tôt lors de la prestigieuse cérémonie des Flammes, au cours de laquelle il avait reçu la flamme Spotify de l'album de l'année. Et pour cause, puisque cet artiste né de parents camerounais était le plus gros vendeur d'albums en France pour la deuxième année consécutive. Une consécration qu'il avait atteint en moins de 4 ans. le temps de sa très courte carrière, mais néanmoins mémorable.
Et on écoute Triple V de Rouerinois, un de ses derniers tubes sortis le mois dernier en collaboration avec les rappeurs Damso et Nino.
Trop de vol, donc y'a trop de miles. Y'a trop de buzz, donc y'a trop de femmes. Trop de fans, donc y'a trop de flammes. Chez eux, c'est les streams qui payent. Chez nous, c'est les streams qui parlent.
Et on va changer d'ambiance avec une artiste française d'origine sénégalaise qui revient, elle, sur le devant de la scène. C'est la sublime Awali.
Loving my rebirth, I seize the day. Between earth and the sky.
Et elle revient avec un album encore plus fusion au croisement entre la folk, la world, la soul et le jazz. Essence and Elements est sorti vendredi dernier. C'est le 7e album studio de la chanteuse française née de parents sénégalais. C'est un disque assez spirituel qui nous parle de notre connexion au monde et de la dimension céleste qui nous entoure. Pour écrire cette nouvelle page, Awali s'est inspiré des éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. La chanteuse nous explique ça dans une interview de Marjorie Bertin à retrouver sur notre site RFI.fr. En attendant, je vous propose ce titre planant et envoûtant, sorti tout droit de son album, voici Essence.
Anchor deep down into earth. Grateful for I know my worth.
Voilà, court extrait de Essence de Awali. Et on termine, Franck, en beauté avec celui que l'on surnomme le roi de la mélo, un roi dont on a aussi beaucoup parlé la semaine dernière, Franck.
Et tout à fait pour cause, puisqu'il était le grand gagnant de la cérémonie des flammes la semaine dernière. On parle bien sûr de Tiakola, le rappeur d'origine congolaise qui est en tournée pour son Mélo World Tour. Il joue déjà dans la cour des grands à l'âge de 25 ans et nous, à RFI, on a son concert complet sur notre site internet. Un concert enregistré le 27 mars dernier à l'Accor Arena de Paris par nos équipes de RFI Labo. Attention parce que c'est un mixage spécial en Dolby Atmos, c'est du son spatialisé et ça s'écoute de préférence au casque. Si vous voulez revivre ce moment en immersion, rendez-vous sur RFI.fr.
Et on écoute Psychologique de Tiakola, je crois que c'est la chanson qui ouvre son concert d'ailleurs.
Alors, je vois que vous avez écouté le concert Zéphirin, c'est bien ça.
Et plutôt deux fois qu'une. Merci beaucoup Franck Baudin et à très bientôt.
Je t'aime, j'ai plusieurs certifs avec Shuriken. T'es en train de découvrir, je suis habitué. T'aimes pas, on jouera mais sous les sifflets. Pense que j'ai quitté la soirée très tôt. Car je suis marié mais j'ai RDV. Avec son patron, dans des mains matin. Ça parle en plusieurs euros sous le calepin. T'as pas de l'heure, pas de la vie. Tu sais que le temps c'est de l'argent, j'ai pas le temps. Et quand j'en ai, j'investis, j'investis, j'investis. Maison du daron au bled. Quand ça marche pour moi, ils sont verts. C'est juste que tu rêves.
Mais c'est avec cette chanson du Congolais Tiakola que s'achève cette demi-heure d'info africaine réalisée ce soir par Raphaël Lazizi, rédactrice en chef Sabine Mélé, assistée de Simon Bulbaudin. Merci à eux et surtout merci à vous de nous avoir suivis dans un peu plus d'une minute maintenant. L'info revient sur Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Cher Ibra Femme. Mino Crusaders. Proto-G.
Big sound string on, pick it off like wow. In a the arena, we know lie low. Good sense in me, Lord, is all I grow. Rastafari, no, Rastafari, no.
Negmaro.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.